R. Philippe, Métaphysique à Fribourg, le 17 mai 83, premier cours.
Je réponds d'abord à cette question. Selon Boès, repris par saint Thomas, la personne est une substance individuelle de nature rationnelle. Saint Thomas dit encore que la signification formelle de personne en général est la suivante. Personne en soi signifie une substance intellectuelle individuelle. Ceci, c'est dans les sentences. Hein, le premier saint Thomas. Et plus loin, alors dans le De Potentia et la sentence, persona dicitur aliquid distinctum subsistens in natura intellectuali. Je n'ai pas besoin de traduire, tout le monde comprend. Bon, j'espère que la personne en, donc, est dit quelque chose de distinct, subsistant dans la nature intellectuelle. Peut-on à partir de là dire que l'âme séparée du corps, après la mort, est une personne au sens général? Et qu'est-ce qui l'individu alors? Bon, alors, comprenons bien. C'est Boès. Boès fait partie d'une tradition philosophique. Et au fond, c'est le propre des définitions. Du reste, saint Thomas reprendra dans la Somme pour montrer qu'il s'agit bien d'une définition. Il cherchera à voir comment c'est une vraie définition. Et ce n'est pas commode du tout. Parce qu'au fond, genre et différence spécifique, ce n'est pas commode à voir quand il s'agit de cette manière de considérer ce que c'est que la personne. Ce qui est sûr, c'est que pour saint Thomas, dans cette tradition de Boès transformée par une réflexion théologique, saint Thomas considère que la personne est la substance individuelle, toujours. Et puis, le point de vue de l'esprit. Je crois que ça a été constamment les deux points de vue que saint Thomas a vus, la rencontre, si vous voulez, de l'esprit et de l'être. Traduisons ça comme cela, parce que je crois que c'est comme ça qu'on doit le traduire aujourd'hui. C'est que, de fait, saint Thomas voit la rencontre, la synthèse entre l'aspect de l'être. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans l'être? C'est l'aspect substantiel. La substance, c'est l'aspect fondamental de l'être. La substance est donc quelque chose de primordial dans l'ordre de l'être. Et c'est pour ça que saint Thomas maintient toujours substance individuelle. Ça, il l'a maintenu à travers tout. Substance individuelle. Puis, l'aspect esprit. Et on comprend très bien ce que ça veut dire. L'aspect esprit ouvre la personne vers l'infini. Puisque l'esprit, c'est le point de vue de l'intelligence et la volonté, c'est le point de vue d'une finalité qui soit une finalité au-delà du monde physique. Par le point de vue de l'esprit, l'homme, en tant que personne, domine l'univers. Alors, n'oublions pas que sous-jacent à cela, il y a toute cette grande vision des pères de l'Église, l'homme, image de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, parce que je crois que si on oublie ça, on ne comprend absolument pas la perspective de saint Thomas. Toute la vision de saint Thomas sur la personne humaine, c'est toujours cet arrière-fond, imago Dei, l'image de Dieu. L'image de Dieu qui a ce pouvoir de dominer l'univers. Alors l'univers, c'est à la fois l'univers physique, et le petit univers qui est notre corps. Et c'est pour ça que saint Thomas prendra toujours ce double aspect de l'esprit. L'esprit domine l'univers, l'homme en tant que personne est capable de dominer l'univers, est capable de dominer son propre corps. Ça fait partie de la personne humaine, ça. Et puis, en plus de cela, le point de vue de l'intelligence et de l'amour. L'imago Dei, vous savez bien, implique les trois dimensions. Et au fond, on retrouve bien cet aspect qui est présent dans cette vision de la personne, l'aspect substance, l'aspect esprit, intelligence et amour, capacité d'aimer et la capacité de connaître à l'infini. Alors, je crois que c'est ça qui fait que saint Thomas adopte tout simplement, et ça c'est l'humilité de saint Thomas. Ben, nous, les modernes, quand on est en face d'une vieille définition, On dit, non, vous voyez, c'est pas tout à fait ça, il faut reprendre, il faut donner autre chose. Ce qui est extraordinaire dans Saint Thomas, c'est qu'il prend les vieux meubles, et puis il leur donne un coup de chiffon, de cire, et puis il fait quelque chose de nouveau. Parce qu'il est évident que la manière dont Saint Thomas regarde la personne n'est pas tout à fait celle de Boèce. Quand on connaît un peu Boèce, on sait que Boèce, c'est très la logique. Boèce ne connaissait pas la métaphysique d'Aristote. Hein. Il ne connaissait que la logique, les catégories et la logique. Donc Boèce était pris par le point de vue des catégories. Et la personne, dans la perspective de Boèce, c'est l'au-delà des catégories. Vous voyez, il ne faut pas l'oublier, parce que le commentaire de Boèce est une des choses à lire, du reste. Hein. Ceux qui s'intéressent aux catégories, c'est le commentaire de Boèce des catégories. C'est intéressant, c'est une première ébauche du commentaire des catégories et qui exprime une vision logique des catégories, mais une vision quand même qui est assez intéressante. Alors, la personne, c'est l'au-delà des catégories, c'est lié aux catégories par la substance première. C'est bien la substance première, mais c'est en plus de ça le point de vue d'une nature spirituelle. Saint Thomas, lui, a eu la métaphysique d'Aristote. Il a donc une conception de la personne très différente, parce qu'il a une autre conception de la substance. Et je crois que chez lui, c'est beaucoup plus ces deux aspects, l'absolu dans l'ordre de l'être, d'où fleurit l'esprit. Oui, c'est l'être qui, dans sa racine substantielle, s'épanouit en esprit. Et c'est ça sa vision de la personne. Ça, c'est beaucoup plus proche de tout ce que nous pourrions concevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la personne pour nous? Ben oui, ontologiquement, c'est un certain absolu. Et puis, spirituellement, c'est une ouverture vers les autres, au point de vue de l'intelligence et au point de vue de l'amour. Et donc, les deux aspects. Voyez, et c'est ça, je crois, qui est dans la vision de saint Thomas. Alors, peut-on à partir de là dire que l'âme séparée du corps après la mort est une personne au sens général? Saint Thomas dit que c'est une personne dans un sens mutilé. Il y a un bras en moins, si vous voulez. C'est pas un monstre, mais c'est une personne auquel il manque quelque chose. La personne est un tout, et c'est ce que prendra saint Thomas dans la Somme. Et il développera beaucoup ce que c'est que la personne dans la Somme à cause du mystère de l'incarnation. Et on comprend très bien, à cause du mystère de l'incarnation, vous comprenez que ça exige aux théologiens d'aller assez loin pour voir comment il peut y avoir deux natures dans une personne. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, ça. Deux jumeaux dans une personne, vous voyez, c'est les jumeaux de la Trinité, n'est-ce pas? C'est la nature divine et la nature humaine, et tous les deux sont liés dans la personne du Verbe. C'est extraordinaire, ça, comme chose, un point de vue vision du théologien, de voir la personne du Verbe qui assume la nature humaine, qui l'assume d'une manière telle que la personne divine et la personne humaine cohabitent dans la même personne. Invraisemblable. Le philosophe n'aurait pas pu inventer ça. On a inventé des hommes-poissons, on a inventé des mais pas quelque chose d'aussi extraordinaire. N'est-ce pas? C'était plutôt vers le bas quand on regardait. Tandis que là, c'est vers le haut. Vous voyez, c'est Dieu qui vient, qui assume l'homme et qui le met à l'intérieur même de son mystère. Alors, le théologien, en face de ça, est obligé d'essayer de comprendre. L'homme dans le Christ est parfait. Il n'est pas une personne humaine. Ça, c'est pas commun à comprendre. Hein. Pourtant, saisir ça, parce que c'est là où on va saisir ce que c'est que la personne poussée jusqu'au bout dans la perspective du théologien. Vous voyez ? Normalement, pour nous, hein, habituellement, la personne, c'est ce qu'il y a de plus parfait. L'homme parfait est une personne. Regardez toute la vision des psychologues. L'homme parfait est une personne. Ça, c'est bien évident. Un homme qui n'est pas une personne, il lui manque quelque chose, quoi. Et la personne, elle est un tout. Et la personne, l'homme parfait, est une personne. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que vous avez un homme parfait, individuellement, un individu parfait, un homme parfait, qui ne subsiste pas en lui-même et qui subsiste dans une personne différente. La personne qui est le même. Alors, évidemment, on dira que cette personne qui est le Verbe, comme elle est infiniment supérieure à la personne humaine, elle peut permettre à l'homme, subsistant dans le Verbe, d'être absolument parfait. Oui, autrement dit, il y a une suppléance de la personne Verbe, de la personne, de la seconde personne de la Très Sainte Trinité, qui permet à l'homme parfait de subsister divinement. Donc s'il subsiste divinement, il épanouit encore plus profondément l'homme que si l'homme subsistait en lui-même. Mais on s'en tire comme ça. C'est du reste très juste, hein, c'est très très vrai, c'est pas du tout faux, mais on voit très bien qu'il faut saisir quand même cette chose très particulière que l'homme dans le Christ, dans le Verbe incarné, l'homme est parfait, mais il a aussi une pauvreté radicale, puisqu'il subsiste dans une personne qui n'est pas l'homme. Alors vous voyez, si vous prenez un point de vue psychologique, comme c'est difficile, et au fond c'est tout le drame de la théologie d'aujourd'hui, et c'est qu'au fond on a une vision du Verbe, du Christ, par un point de vue psychologique, et par un point de vue psychologique, comment arriver? Comment pouvez-vous dissocier l'homme de sa propre personne? Au point de vue psychologique, c'est impossible. Un homme parfait, c'est une personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a deux personnes. Il y a la personne humaine et la personne divine. Alors à ce moment-là, vous êtes contre la grande tradition qui dit qu'il n'y a qu'une seule personne. Oui, c'est ça, c'est, je crois, très important à saisir. Le point de vue métaphysique. Quand j'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme et la personne, je peux comprendre qu'en effet, l'homme peut subsister dans une personne supérieure qui supplée. Je peux dire ça. Il n'y a aucune impossibilité à ça. Parce que la personne n'est pas un principe propre constitutif, ce que nous avons vu la dernière fois, vous vous souvenez ? La personne n'est pas un principe propre constitutif, elle est uniquement une manière d'exister. Un pose, hein. Vous vous souvenez, on a vu ça la dernière fois, vous avez dit que c'est très important. C'est un pose, et que la personne n'est pas un principe propre. Mais si la personne était un principe propre, en face du mystère de l'incarnation, je serais obligé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien alors je dirais, il y a un principe supérieur qui remplace ce principe propre. Ça ne va pas. Si c'est un pose, si c'est uniquement une manière d'exister, je comprends beaucoup plus facilement. C'est une manière d'exister de la personne humaine qui assume la personne humaine. Ça peut se comprendre. Et la personne humaine, alors, est dans un état de perfection encore plus grand que celle subsistée en elle-même. Si j'ai un point de vue psychologique, il faut y réfléchir là-dessus. Si j'ai un point de vue psychologique, et que je reste uniquement un point de vue psychologique, sans métaphysique, vous voyez, la personne, l'homme, n'est parfait que dans sa propre personne. Les trois sentiments du moi. Alors prenez les trois sentiments du moi du Christ. N'est-ce pas? Et comprenez ce que ça veut dire. Alors la personne du Christ, pratiquement, il y a une personne humaine, y a-t-il une personne humaine? Non, on dit qu'il n'y a qu'une personne divine. Alors, d'où le gros problème, quelle est la conscience que le Christ a de lui-même et tout ça? Comme si le Christ était tâté le pouls tout le temps, en se demandant qu'est-ce que je suis exactement, l'identité du Christ. Le Christ a cherché toute sa vie son identité. Il ne savait pas s'il était un homme ou s'il était un Dieu. Alors de temps en temps il était Dieu, de temps en temps il était un homme. Il cherchait son identité. N'est-ce pas ? Après ça, très bien, je peux faire écrire un livre là-dessus, ça sera un succès monstre. N'est-ce pas ? C'est le Christ cherchant son identité. Parce qu'on ne sait pas exactement. Et c'est vrai, psychologiquement, je ne vois pas, c'est impossible. Impossible psychologiquement. Vous ne pouvez pas résoudre le problème au point de vue psychologique. Vous êtes devant une impasse. De temps en temps, il faut prendre des problèmes comme ça, parce qu'alors ça nous fait comprendre comment la psychologie ne peut pas être assumé par le Verbe de Dieu. C'est vrai, parce que la psychologie, c'est le conditionnement humain. Oui, c'est la réduplication sur la manière d'exister au niveau conditionnement humain. Or, le conditionnement humain dans le Christ, mais il est forcément transformé à cause du Verbe de Dieu. Le Christ sait, non pas, il sait, dans une lumière divine, qu'il est fils de Dieu. Et il sait qu'il est fils de l'homme, fils de Marie. Et il le sait. Et cette situation n'est pas une situation hybride. C'est une situation éminente pour la nature humaine, d'être à la fois fils de Dieu et fils de la femme, fils de l'homme. C'est une situation unique, c'est très vrai, c'est une situation unique. Mais l'identité du Christ, c'est quoi? Si vous vous posez l'identité, hein, qu'on cherche son identité, l'identité du Christ, c'est quoi? Il est Verbe de Dieu, il est fils du Père. Étant fils du Père, il peut être fils de Marie. Oui. Mais ce n'est pas partant d'en haut. C'est-à-dire que si vous dites qu'il est fils de Marie, puis c'est pas très bien. Très bien, il a pris conscience au bout d'un certain temps qu'il était fils de Dieu. Vous partez d'en bas, comprenez-vous. Il faut partir d'en haut. Alors à ce moment-là, oui, très bien, il assume la nature humaine. Partant d'en haut, la personne Verbe assume. Alors, je reviens au problème posé. Je dis, la personne, c'est le tout, c'est très vrai. Bon, la personne a plus. Je laisse maintenant uniquement la vision du Christ. La personne humaine, c'est un tout. C'est une manière d'exister qui implique une totalité, qui implique à la fois une autonomie, l'aspect substance, qui implique aussi une totalité. Donc, un dépassement de soi. Le propre de la personne humaine, c'est de se dépasser. Un animal ne se dépasse pas. C'est le propre de la personne. Oui. C'est une des choses que le Saint-Père insiste tout le temps. L'homme ne peut être parfaitement lui-même que s'il se dépasse. Parce qu'il est une personne. Parce qu'il est esprit. L'esprit ne peut pas demeurer dans l'immanence. Tandis qu'au contraire, le niveau de la substance demeure dans l'immanence. La nature demeure dans l'immanence. Mais l'esprit demande d'aller plus loin et s'ouvrir à autre chose. S'ouvrir à la vérité et à sa finalité. C'est le propre, justement, de l'esprit comme tel. Donc, il y a à la fois autonomie du côté de l'être et finalité du côté de l'esprit. Dépassement du côté de l'esprit. Alors, on comprend très bien que je ne peux pas définir la personne uniquement par l'autonomie. Je dois aussi la définir par le dépassement. Ce dépassement, il se fait à deux niveaux différents. Un dépassement à l'égard de la vie, dans l'amour d'amitié, un dépassement dans la contemplation. Il y a deux dépassements. Et c'est intéressant de voir le double dépassement du côté affectif et du côté intelligence. Liés du reste, toujours, liés en deux, mais deux dépassements possibles. Ce qui me permet de comprendre qu'en effet, la personne, c'est celle qui est capable de communiquer. Certains définiront la personne uniquement la communication. Mais ce n'est pas premier, c'est second. La personne implique un dépassement et dans ce dépassement, une possibilité de communication, une possibilité de se donner. Et une possibilité dans la contemplation de dépassement en réceptivité. Il y a différents aspects, puisqu'on se dépasse en réceptivité et on se dépasse en don. Hein, vous pouvez vous dépasser de deux manières différentes, par la réceptivité et par le don. On se donne et on reçoit. Et les deux choses impliquent le dépassement. Alors vous avez donc l'autonomie du côté de l'être et le dépassement du côté de l'esprit. Alors le problème posé, hein, c'est justement, est-ce que l'âme spirituelle demeure une personne? Cette personne, je veux dire, l'âme spirituelle demeure une substance. Si elle est séparée du corps, hein, je mettrai donc l'âme spirituelle séparée du corps, le corps étant le cadavre dans ce cas-là, l'âme spirituelle séparée du corps est-elle encore une personne? Mais le problème est évident, très très difficile à poser. C'est un problème que le philosophe, il dirait, je ne sais pas. j'ai pas l'expérience. J'ai pas l'expérience de mon âme spirituelle séparée du corps. Qu'est-ce que je serais? Est-ce que je serais une personne à ce moment-là? Est-ce que je serais une personne amputée, qui sait plus exactement, qui louche tout le temps? Un œil vers Dieu, un œil vers mon corps. Dans mon corps, je me dis, qu'est-ce qu'il fiche? Qu'est-ce qu'il, où est-ce qu'il est? Alors, c'est pas très bien, j'ai pas d'expérience. Donc, si j'ai pas d'expérience, j'aime mieux pas en parler. Voilà, la position du philosophe, c'est net. Hein. Et vrai, en purement philosophe, je dirais, je n'en parle pas. Je sais que c'est possible, c'est pas impossible métaphysiquement. C'est pas impossible métaphysiquement parce que l'âme spirituelle peut subsister en elle-même. Donc si elle peut subsister en elle-même, elle peut être une réalité séparée du corps. Mais évidemment, cette séparation du corps est une amputation substantielle. C'est quand même quelque chose. Hein. On a acheté une veste, mais ça coûte cher. Et on a laissé le corps dessus. Et que sera ma vie de mon âme séparée? Quelle sera mon activité intellectuelle, mon activité affective de mon âme séparée? Comment deux âmes séparées s'embrassent-elles? Hein, c'est pour commode à savoir. Comment elles se rencontrent? Comment elles s'aiment? Qu'est-ce que ça représente? Philosophiquement parlant, je ne peux rien dire. Ça, je crois qu'il faut carrément dire. On ne peut rien dire philosophiquement parlant. Donc, point d'interrogation. Je pose la question. Et je répondrai pas au point de vue. Je n'ai pas d'expérience. Vous ne pouvez parler d'une personne qu'à partir des opérations. Alors, vous n'avez pas l'expérience de l'opération, vous n'avez pas l'expérience. Vous pouvez dire, métaphysiquement, ce n'est pas impossible. Voilà. Ce n'est pas impossible que l'âme spirituelle puisse subsister en dehors du corps. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'elle est? Comment vit-elle? Comment est-elle? Est-ce qu'elle est encore une personne? Est-ce qu'elle est encore individuée? Elle est individuée dans la mesure où elle louche sur le corps, c'est sûr. Elle est individuée de cette manière-là. Comme elle a été très liée au corps, elle est sûrement individuée en elle-même. Ça, c'est sûr. Plus on vieillit, hein, plus l'âme est individuée par le corps. Et plus l'âme est personnalisée par le corps. Conditionné mais aussi personnalisé. Donc je comprends comment cette âme spirituelle séparée du corps peut subsister et peut subsister dans son individualité. L'individualité alors ne se définira plus comme l'individu qu'on définit ici sur la terre, on dira qu'elle a une identification analogue à celle des anges. Mais philosophiquement, vous voyez, comme je ne peux pas affirmer les anges, je peux simplement dire qu'il peut y avoir des substances séparées qui peuvent exister. Mais je ne sais pas ce que c'est. Quelle est leur vie? Je n'en sais rien. Donc je ne peux pas aller plus loin. Alors, théologiquement, je peux aller un peu plus loin. Pas philosophiquement. Théologiquement, je peux aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que théologiquement, je sais que l'état des âmes séparées est un état d'attente. L'âme séparée attend la résurrection. Ça, c'est le théologien qui dit ça. Le philosophe, il pourrait dire. Il peut en avoir un désir de résurrection du corps, mais il n'en sait rien. Et puis, le théologien sait que l'âme séparée voit Dieu. Elle est dans la vision de Dieu et elle attend la résurrection des corps. Donc, dans la vision de Dieu, elle est dans un état de perfection. Elle touche sa fin. Donc elle est dans l'état de perfection. Donc l'esprit n'a jamais été aussi parfait. Donc d'une certaine manière, elle est beaucoup plus personne que sur la terre. Elle a une autonomie substantielle et elle est parfaite dans sa finalité. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais cependant, elle reste dépendante par rapport au corps. Elle est en attente de la résurrection. Alors, je dis, c'est encore une personne. C'est sûr que c'est une personne. Ça reste une personne. Ça reste une personne dont le statut, dans la manière d'exister, m'est inconnu. Je ne peux pas en préciser. Mais je dirais que c'est une personne à cause de la finalité. Finalité, parce que c'est les deux aspects hein, qui donnent le point de vue de la personne. L'aspect autonomie substantielle et finalité. Or, les deux existent quand l'âme est séparée. Elle continue d'être une substance, c'est bien évident, qui subsiste, donc du côté de l'être, elle a son autonomie. Il a son autonomie individuelle parce qu'elle a été individuée par le corps. Et elle est pleinement finalisée. Et si elle est pleinement finalisée, elle a une autonomie substantielle et elle a une autonomie de vie. Puisque plus vous êtes finalisé, plus vous êtes autonome. Voilà ce que je répondrai, vous voyez, en distinguant bien le statut philosophique du statut proprement théologique. On ne peut pas dire que l'âme séparée est une personne humaine, puisque le corps est essentiel à la personne humaine. On ne dit pas de l'âme séparée qu'elle est un homme. Philosophiquement parlant, non. Et spirituellement parlant, théologiquement parlant, vous continuez de considérer que ceux qui sont séparés de nous, on continue de les appeler par leur nom. Quand vous avez connu sur la terre quelqu'un et qu'il est dans la terre, vous continuez de l'appeler par son nom. Vous le considérez encore comme une personne. C'est bien évident. Mais vous savez qu'un jour il sera ressuscité, il sera dans une plénitude, qu'actuellement il y a quelque chose qui manque. Qui ne manque pas à son bonheur d'esprit, mais qui manque à sa plénitude. Alors je dirais que c'est un état imparfait, mais c'est une personne. Je ne dirais pas que ce n'est pas une personne. Parce qu'autrement, vous définiriez la personne par le corps. Or, vous ne définissez pas la personne par le corps. Vous définissez la personne par la substance. Or, l'âme spirituelle, c'est une substance. Et une substance individualisée est un esprit. Donc, c'est une personne. Mais dont le mode, la manière d'exister, vous échappe. S'il y a des questions là-dessus, dites-le. Moi, je crois. Oui.
On peut continuer aussi à l'appeler cette âme spirituelle séparée, homme.
Vous l'appelez par son nom. Quand vous dites André, est-ce que c'est un homme? Saint Joseph, vous considérez que c'est pas un homme? C'est pas un homme, Saint Joseph. C'est une âme séparée. Flottant. Quand vous priez un saint, vous priez une personne ou bien non? Vous vous adressez à une relation personnelle. C'est une relation personnelle. Comment je pourrais pas m'adresser à lui? Donc c'est vraiment un homme. Mais il a un état particulier, je sais bien. Au fond, l'âme peut avoir des états particuliers. Quelqu'un qui est dans un état d'infirmité absolue, il reste un homme, il est infirme. Son corps est mutilé, ça n'a pas d'importance. Et là, la mutilation est un peu plus radicale. L'opération chirurgicale est assez forte. L'opération chirurgicale que seul Dieu peut faire, mais c'est une opération chirurgicale. Il a essayé d'occuper le corps pour libérer l'âme de l'âme. Qui lui a donné la vision béatifique. C'est grâce à ça, vous voyez. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile quand... Je comprends très bien comment les anciens considéraient que les âmes séparées étaient dans un état un peu ténébreux, vous savez pas très très bien ce que c'est. On voit très bien. Nous disons grâce à la finalité, parce que dans la vision béatifique, elles sont parfaitement elles-mêmes. Et elles sont bien heureuses. Ça, c'est une personne. C'est quand même une personne, donc c'est vraiment la nature humaine n'est pas absolument elle-même à cause du corps qui n'est pas ressuscité, qui reste séparé. Je crois qu'il faut dire une personne. Parce qu'autrement, vous alliez définir la personne uniquement par le corps. Alors, est-ce que les anges sont des personnes? Est-ce que Dieu est une personne? C'est l'aspect substantiel et l'aspect esprit qui fait la personne. L'aspect substantiel, point de vue ontologique, c'est quelque chose de fondamental et premier. Et c'est l'aspect esprit par la finalité et la capacité d'aimer et de vérité. Alors, si on le peut dire, Dieu est une personne. Et qu'en disant que Dieu est une personne, vous regardez sa substance, sa simplicité dans le monde de l'être, et vous regardez sa vie. Oui. Oui.
Pour la personne individuelle, puisque l'âme est individuelle.
Exactement, c'est que elle, la substance, mon âme est créée dans mon corps, et parce qu'elle est créée dans mon corps est substantiel à mon âme. Mais cet aspect substantiel est second. S'il était premier, il ne pourrait pas en prendre. Mais il est second, c'est un co-principe. Alors comme c'est un co-principe, c'est un principe qui est lié essentiellement, substantiellement, mais qui est quand même second. Mon corps n'est quand même pas premier par rapport à ma personne. Vous voyez, il me permet, tant que je suis sur la terre, d'entrer en contact avec les autres. C'est bien évident. C'est pour ça que je ne sais pas quel est le statut exact de l'âme séparée. Mais qu'elle soit personne, oui, elle est personne.
Oui. Oui. Philosophiquement, on ne peut rien dire sur la vie de l'âme séparée.
Très bien. Très bien. Parce qu'on ne peut parler qu'au point de vue expérience. C'est ce qui explique comment les philosophes voudraient bien avoir un contact avec les âmes séparées. Vous vous souvenez, c'était une petite philosophe de Paris qui me disait oh, on m'a donné la possibilité d'entrer en contact avec les âmes séparées. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ça m'intéresse beaucoup. Je comprends que ça serait intéressant. Vous auriez aujourd'hui un cours par une âme séparée. On la verrait pas, mais on serait là, les âmes séparées. On mettrait, vous auriez un succès, non, à telle heure, vous aurez un succès, un cours de philosophie des âmes séparées qui vous dirait l'état particulier de cette âme séparée. Comment elle fait sa philosophie, comment elle s'intéresse à la philosophie, comment il y a une nouvelle philosophie, elle vous dirait si le réalisme juste la tienne. Non, très bien, ce qu'on pourrait faire. Mais tout ça serait imaginatif. Je n'ai aucune expérience. C'est même ça tragique au point de vue philosophique. Hein. C'est assez tragique de voir que de fait, après la mort, il n'y a plus aucune expérience. Les expériences possibles, c'est dangereux parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça correspond. Gabriel Marcel, il est hanté de ce problème. Hanté. Ça a été le grand problème de sa vie, Gabriel Marcel. Alors il a essayé. Vous savez, il a fait une préface très très curieuse, invraisemblable pour Gabriel Marcel, mais qui était aussi tout à fait du Gabriel Marcel. Il a fait cette préface étonnante à cette personne qui écrivait une écriture automatique, à cette mère de famille, qui son fils était mort. Alors elle était en relation avec lui, et puis tous les jours elle lui écrivait une lettre. Et le fils répondait, et elle écrivait. Alors il y avait la lettre et puis la réponse. De la même personne, évidemment. Mais il y avait la lettre et la réponse. Alors, c'était comme automatique. Et alors, Gabriel Marcel a fait une préface. Pourtant, je ne sais plus le titre. J'ai lu ça, et en même temps, c'est la magnifique. Comment ça, tu as perdu des larmes pour Gabriel Marcel. D'accord ? Parce que mais il était hanté. C'était toujours la présence de l'âme séparée. Et au plan philosophique, c'était au plan philosophique qu'il essayait de saisir ça en disant il y a des liens spirituels qui ne peuvent pas disparaître avec la mort. C'est vrai. Il y a des liens spirituels qui ne peuvent pas disparaître avec la mort. Alors, et le jour où on trouvera, n'est-ce pas, des radiesthésistes par rapport au ciel, ben, tout le monde ira me consulter, aller par là, qui peut me donner, faire des sommes de politique, ça rapportera beaucoup d'argent, tu vois, ça fait dans le monde d'aujourd'hui, c'est extraordinaire.
Tout ce qu'on appelle aussi expérience mystique ne peut pas entrer en ligne de compte sur le plan philosophique.
Je peux, expérience mystique, vous voyez, je peux par exemple par Plotin. Je prends Plotin. La philosophie de Plotin. C'est Olivier Lacombe qui a beaucoup étudié ça avec la. L'expérience religieuse. L'expérience religieuse intéresse le philosophe. Expérience religieuse. Quand vous êtes en face d'un saint qui parle de son expérience à partir de la foi, le philosophe dit, ça m'échappe. Le philosophe ne peut rien dire sur la foi, mais le philosophe s'intéresse aux traditions religieuses. Alors, c'est pour ça que Plotin est un cas très intéressant. Et l'Inde aussi. Parce que l'Inde parle d'expérience religieuse, qu'est-ce que ça correspond exactement, cette expérience religieuse? C'est là le grand... fameuse question de savoir qu'est-ce qu'y a-t-il une mystique naturelle ou n'y a-t-il pas de mystique naturelle? C'était la grande question d'Olivier Lacan. Et au fond, c'est très délicat. C'est très très délicat, cette question de l'expérience. Le philosophe peut, je crois, ça fait partie de la position du philosophe par rapport à l'aspect religieux, le philosophe doit dire que l'homme est naturellement religieux. Que correspond cette expérience religieuse de l'homme? Ce n'est pas une expérience directe de Dieu. S'il y avait une expérience directe de Dieu, je pourrais commencer ma philosophie par l'expérience religieuse. C'est toujours une question que je me pose, si vous voulez. Un jour, c'était à Paris, j'ai fait ça deux cours. C'était chez les charismatiques à Paris. Ils ont fait un petit institut Jean-Paul II. Alors, je vous donnais des cours de philosophie là. Ça m'intéresse, c'est un public charismatique, mais qui s'intéresse à la philosophie. C'est très intéressant. Alors, c'était intéressant pour eux de poser le problème. Est-ce que nous pouvons commencer la philosophie par l'expérience religieuse? Je savais très bien que c'était le gros problème. On l'avait posé plusieurs fois. Alors, est-ce que je peux commencer ma philosophie par l'expérience religieuse? Je commence la philosophie par l'expérience du travail, l'amour d'amitié, la conversation. Vous oubliez l'expérience religieuse. C'est affolant. Vous devriez quand même commencer par l'expérience religieuse. C'est quand même bien plus fondamental que tout le reste. Commencez votre philosophie par l'expérience religieuse. Prenez ce que dit Bergson, l'expérience religieuse. L'expérience de la contemplation des mystiques. Alors, est-ce que je peux commencer une philosophie réaliste par l'expérience religieuse? Il faut se poser la question. Si on ne se pose pas, il y a quelque chose qui nous manque. Est-ce que nous pouvons commencer la philosophie par l'expérience religieuse? Alors, j'ai essayé de comprendre quel est le contenu de l'expérience religieuse. Après, on pourrait se poser la question, quel est le contenu de l'expérience mystique naturelle? Il faut d'abord se poser la question, ben je crois, au point de vue proprement philosophique, quel est le contenu exact d'une expérience religieuse? Bien, je crois que le contenu de l'expérience religieuse, c'est le tremendum, hein, comme on dit. C'est cette espèce de crainte sacrée en face d'une présence. Une présence qui nous dépasse. C'est l'expérience qu'on peut avoir de l'adoration. L'adoration est une expérience religieuse. Il y a des jours où vous êtes quelqu'un qui adore spontanément en comprenant que oui, il y a quelque chose. Il y a une réalité, il y a des lieux comme ça, il y a des endroits où vous sentez qu'il y a du sacré. Il y a quelque chose qui passe. Alors, qu'est-ce que c'est que le contenu de l'expérience religieuse? On ne parle pas de la foi. Vous pouvez discerner la différence entre l'expérience religieuse et la foi. Si je suis croyant, si je ne suis pas croyant, je ne regarde que l'expérience religieuse. Ce tremendum, c'est quelque chose de très intéressant à voir. Eh bien, je crois que ce contenu de l'expérience religieuse, c'est une attitude affective, volontaire, par laquelle j'offre ma vie à un être dont je n'ai pas l'expérience immédiate. Il y a une présence, mais il n'y a pas l'expérience immédiate. L'expérience religieuse n'implique pas un toucher direct à l'égard de Dieu. Je suis dans une attitude affective où je reconnais cette dépendance profonde, radicale, à l'égard d'un être qui me dépasse, à l'égard d'un être premier, qui est supérieur à tout ce que je peux imaginer. Mais il n'y a pas de toucher direct à l'égard de Dieu. Donc le contenu de l'expérience religieuse, c'est une attitude subjective. Oui. Faites l'analogie avec l'expérience de l'amour d'amitié. Vous allez tout de suite comprendre. Dans l'amour d'amitié, il y a deux choses. Il y a la joie d'être en présence de celui qu'on aime. Donc il y a cette conscience de cette affectivité subjective que je porte en moi. Et au-delà de cette conscience, il y a la présence de l'autre. Donc il y a expérience objective de l'autre et expérience subjective et intérieure de l'amour que j'ai pour lui. J'ai l'aimé. C'est pour ça que je peux partir de mon amitié. Il n'y avait que l'expérience si je partais d'une amitié, vous voyez, vis-à-vis de quelqu'un que je n'avais jamais vu, il est derrière la porte. Il est derrière la porte, c'est un ami, c'est quelqu'un de merveilleux, mais il est derrière la porte, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il est là tout le temps qu'il est là. Il m'attend, il est là derrière. Et il est merveilleux, il est extraordinaire, c'est merveilleux. Et je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que je pourrais partir de là? Non, je dirais, c'est purement intérieur. C'est vous qui dites ça. Vous dites qu'il est là derrière parce que vous en avez la conviction, mais c'est un a priori au point de vue philosophique. C'est un a priori. Pourquoi savoir s'il est là derrière? Au point de vue de Dieu, comprenons bien, je sais que Dieu est créateur, philosophiquement parlant. Je sais qu'il est créateur. Mais après avoir prouvé l'existence de notre premier, et après avoir prouvé, nous allons essayer de poser peut-être le problème si on veut pousser un peu plus loin ce que nous avons dit la dernière fois, on va donc essayer de montrer qu'il existe un être premier, philosophiquement parlant, et que cet être premier est nécessairement le créateur. Et que si cet être premier est nécessairement le créateur, il existe et il me voit. Il m'aime. C'est plus seulement, c'est plus à la priori. C'est, je sais qu'il est là, mais je sais comme une conclusion. Non pas comme une expérience immédiate. Je le sais comme une conclusion. Je l'ai posé comme un être qui nécessairement est antérieur à moi. Comme un être qui est présent. Comme un être qui est source de mon être. Je sais qu'il est là. Mais je n'ai pas l'expérience de cet être. Et parce que je sais qu'il est là et que je suis dépendant de lui, je l'adore. Et l'adoration ne me donne pas un contact direct avec cet être premier. C'est simplement une reconnaissance affective, volontaire, de cet être premier dont je dépends. Mais il ne me donne pas l'expérience immédiate. Donc il n'y a pas de jugement d'existence immédiate à l'égard de l'être premier. Il y a simplement un état affectif.
Et par rapport à l'expérience religieuse, non celle de foi.
Ah, c'est l'expérience religieuse. Ah, je ne parle pas d'expérience de foi.
Non, à cette expérience
religieuse, uniquement l'expérience
mystique.
Qu'est-ce qu'il y a? Après, nous regardons l'expérience mystique. Je regarde d'abord l'expérience religieuse, parce que c'est l'expérience religieuse qu'on doit regarder en premier lieu. Et je distingue cette expérience religieuse de ce que représente le point de vue de la foi. La foi implique un jugement d'existence direct à l'égard de Dieu. Dieu me parle. Et je suis en contact direct avec lui, dans un jugement d'existence. Tandis qu'au contraire, dans l'expérience religieuse, il n'y a pas de jugement d'existence direct sur Dieu. C'est indirect. J'ai posé Dieu parce qu'il était nécessaire qu'il existe un être premier. Mais je n'ai pas une expérience immédiate. J'ai un jugement d'existence qui est le fruit d'une découverte. Ce n'est pas immédiatement que j'ai dit Dieu existe. Je n'ai pas l'évidence que Dieu existe. Une évidence immédiate. J'ai l'évidence immédiate quand je réfléchis. Je dis, il est nécessaire qu'il existe un être premier. C'est absolument nécessaire. Il est nécessaire que cet être premier soit mon créateur. C'est absolument nécessaire. Mais je n'ai pas l'expérience directe. Donc, au point de vue du jugement d'existence, je n'ai pas un jugement d'existence immédiat à l'égard de Dieu. Mais je reconnais que, étant donné qu'il est le créateur et que je dépends de lui, je dois reconnaître cette dépendance. C'est être dans la vérité pratique. Et alors j'ai l'expérience de l'attitude religieuse, j'ai l'expérience de ce tremandum, j'ai l'expérience de l'adoration, j'ai l'expérience de soumission à l'égard de cet être premier, mais je n'ai pas l'expérience directe. Donc, je ne peux pas me servir de cette expérience religieuse comme un nouveau point de départ. Ça reste purement intérieur. Si j'étais dans une philosophie néo-platonicienne, si j'étais dans une philosophie de l'ontologie, je pourrais. Un platonicien, et on reconnaît tout de suite le néo-platonisme, un néo-platonisme peut commencer tout un secteur de la philosophie par là, et même commencer sa philosophie par là. À la manière de Plotin. Pourquoi? Parce que Plotin met l'expérience intérieure avant le jugement d'existence. Tout est là. le partage des eaux entre le néoplatonisme et l'aristotélisme, c'est quand même très intéressant, parce que c'est là où on essaie de comprendre le partage des eaux entre une philosophie réaliste et le néoplatonisme, c'est justement de faire que toute expérience interne doit se prolonger dans une expérience impliquant le jugement d'existence, tandis que pour le néoplatonisme, l'expérience interne suffit. Je peux à partir de là. Alors réfléchissez là-dessus, nous dirons tout à l'heure l'aspect de l'expérience mystique.